Cette semaine, je suis avec Jean-François Béricault pour parler de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi canadienne sur la protection des renseignements personnels.
Et, bonjour Nicolas.
Incessamment, la loi fédérale sur, dans le fond, ce qui est la pipéda, va rentrer en vigueur avec des nouvelles considérations. Donc, c'est intéressant de nous entretenir.
Ouais. En fait, c'est le 1er novembre qu'entrent en vigueur les dispositions qui ont été adoptées en 2015. Là. Alors, donc, la loi, qui est une loi modificatrice de ce qu'on appelle pipéda absolument. Je pense qu'en français, c'est la loi sur la protection des renseignements personnels et des documents électroniques. Mais, tu sais, on voit tout de suite que ce titre-là est pas très efficace pour...
de notre époque.
Exact. Alors, on va parler de pipéda. Et en 2015, la Chambre des communes a adopté une loi modificatrice qui introduit une des obligations de notification en cas d'atteinte à la confidentialité des renseignements personnels ou d'incident de sécurité, où je pense qu'on s'en sert. Et donc, c'est le 1er novembre, par voie de décret, que le gouvernement fédéral a annoncé que ces dispositions-là entrent en vigueur.
Donc, dans le fond, c'est un pour le Canada. Canada, au sens large, ça nous permet de rentrer au 21e siècle, comme un peu ce qu'on voit en Europe, entre autres. Étant une loi fédérale, son application est un peu différente de ce qu'on peut... On pourrait être habitué de constater.
Oui. En fait, tu as tout à fait raison de souligner que c'est comme un avènement ou une mise à niveau, on devrait dire, non seulement avec l'Europe, mais aussi avec, je pense, c'est 47 ou 48 États américains qui ont des dispositions au niveau étatique là, qui imposent la notification en cas de brèche à la sécurité de l'information. Alors donc, au Canada, on a, dans notre régime fédéral, donc deux types de lois qui gouvernent la protection des renseignements personnels. Alors, celle à laquelle on réfère là, PIPEDA, c'est une loi fédérale qui s'applique, et là, désolé de faire vous allez dire, ça prend bien un avocat pour ça, là, mais essentiellement, cette loi-là s'applique dans toutes les provinces canadiennes qui n'ont pas elles-mêmes une loi d'application générale en matière de protection des renseignements personnels. Et quelles sont ces provinces qui ont des dispositions qui encadrent la protection des renseignements personnels? C'est le Québec, l'Alberta, la Colombie-Britannique et dans le secteur de la santé, certaines autres provinces, dont l'Ontario. Mais de façon d'application générale, là, c'est le Québec en étude. Alors donc, là, ce qui arrive, c'est que les dispositions qui imposent une obligation de notification qui rentre en vigueur le 1er novembre vont s'appliquer partout au Canada, sauf dans ces provinces-là. Et là, malheureusement, pour en rajouter une couche, cette loi-là fédérale, elle s'applique aux entreprises de compétences fédérales. Alors, de qui on parle? Des banques, des entreprises de transport interprovincial et des entreprises de télécommunications. Alors, les grandes telcos, les banques, les entreprises de transport, elles y sont assujetties. Mais il reste que pour l'instant, une entreprise du secteur privé québécoise n'est pas assujettie à cette obligation-là.
C'est parce qu'on a une loi québécoise qui est supposément équivalente.
Bon, alors là,
j'insiste quelque chose.
Le commentaire est à point. Alors, la raison... La décision de dire que le régime québécois qui est énoncé dans la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé est équivalente remonte à 2000 ou 2001. C'est-à-dire que lorsque le fédéral a adopté sa loi, ils ont fait l'exercice d'établir ou de valider l'équivalence ou la non-équivalence des lois d'application générale des provinces. À ce moment-là, ils ont conclu que c'était équivalent. Maintenant, théoriquement, le gouvernement fédéral pourrait revoir cette décision-là et constater que depuis l'introduction d'une obligation de notification en cas de brèche à sécurité dans la loi fédérale et constatant que le Québec, dans son régime applicable au secteur privé, n'a pas de telle obligation, revoir la décision et dire ce n'est plus quelque chose de cet ordre-là. Mais le fin mot, c'est que, à strictement parler, le 2 novembre au Québec, il n'y a rien qui a changé. Ceci dit, depuis longtemps, c'est-à-dire depuis que les organisations font font l'objet d'attaques qui se matérialisent, qui mènent à des brèches de sécurité, ben on a tendance, quand on nous pose la question, à dire que même si on n'est pas obligé de le faire par une obligation positive, c'est quand même la meilleure façon de minimiser les dommages potentiels pouvant découler d'une brèche à sécurité. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas dans l'espace public souvent, mais il faut comprendre qu'au-delà d'une obligation positive de notification, toute organisation qui détient des renseignements personnels a une obligation de déployer des mesures de sécurité appropriées à la sensibilité de l'information. Et dans l'éventualité où il y a une brèche, même s'il n'est pas écrit qu'il faut notifier, on est obligé comme organisation ou citoyen à déployer des moyens raisonnables pour réduire le plus possible le préjudice et le dommage qui peuvent en découler. Fait que ça continue d'exister.
Ben, de toute façon, en régime civiliste, il y a quand même des obligations contractuelles dans lesquelles on est obligé de suivre de toute façon. Fait qu'on ne se soustrait pas à ce genre de choses-là de toute façon. Oui?
Ouais, il faut savoir qu'au-delà de la loi et des règlements, il y a aussi des entreprises qui sont dans des secteurs réglementés comme tout ce qui est assujetti à l'autorité du marché financier.
L'AMF, oui.
Ouais. L'AMF utilise un véhicule normatif qui s'appelle des lignes directrices. Là, et dans une de ces lignes directrices-là, sur les bonnes pratiques d'affaires, il y a une obligation positive aux organismes assujettis. Fait que ça veut dire tout le monde qui est impliqué dans la distribution des produits et services financiers. De notifier l'autorité et les personnes concernées en cas de brèche à sécurité. Fait que ça, c'est pas négligeable parce que c'est quand même un secteur de l'économie là, qui regroupe quand même beaucoup d'organisations. Alors, je le souligne là, au passage parce que ça fait déjà partie de l'environnement.
Oui, ben, cette loi, la loi fédérale ou la loi provinciale qui devrait être révisée d'ailleurs là, parce qu'elle a été abandonnée avec la dissolution de la Chambre, ne sont pas les seuls moyens qui existent. Il y a d'autres obligations dans lesquelles on peut pas... se cacher en dessous, c'est pas parce qu'on cache en dessous de la couverte qu'on n'a pas d'obligation de le faire en ce sens-là, effectivement. Là.
Exact. Puis ça commence à être... T'sais, pourquoi c'est une bonne idée de légiférer là-dessus, que ça devienne une obligation? C'est parce que, tu sais, depuis plusieurs années, puis c'est vrai dans le public comme dans le privé, il y a des organisations qui sont victimes d'incidents, puis qui passent plus d'énergie à se poser la question s'ils devraient le révéler que, là, j'exagère évidemment, là, mais qui passent beaucoup d'énergie, qui dépensent beaucoup d'énergie à se questionner s'ils devraient révéler ou pas révéler à cause de l'incidence de la communication publique sur ça. Et il faut que ça arrête, ça. Il faut que ça cesse parce que jusqu'à maintenant, lorsqu'on a examiné le comportement des organisations, évidemment, on s'intéresse à ce qui a été fait ou pas fait avant un incident en termes de déploiement de mesures administratives, technologiques, de gouvernance, mais on s'intéresse aussi beaucoup à qu'est-ce qu'on fait à partir du moment où on est avisé. Fait que, tu sais, c'est beau d'avoir un plan de contingence et un plan de gestion d'incidents, ça devient essentiel, mais il faut que quand on le met en place, ça mène à un avis aux personnes concernées parce que sinon, c'est comme faire de la pensée magique qu'il n'y arrivera rien. T'sais. Alors, ça ne peut pas fonctionner.
Non, effectivement, ça ne soustrait pas les organisations, leurs obligations là, pour autant. Là. Mais c'est sûr aussi en même temps que peut-être une bonne équipe de gestion de crise ou gestion de communication en état de crise aussi est un bon élément parce que à maintes reprises, il y a beaucoup de cafouillages de ce niveau-là qui donnent de mauvaises informations. Ou justement, on se pose trop longtemps les questions à savoir ce qu'on devrait ou ne devrait pas le faire quand des personnes spécialisées dans ce domaine-là de gestion de crise vont être en mesure d'être capables de répondre à ces questions-là et d'aiguiller rapidement. Puis dans ce cas-ci, dans l'univers dans lequel on est, si on ne va pas rapidement, on va mourir. Tout se passe tellement vite maintenant.
Absolument. Et en fait, ce qu'on commence à constater dans les quelques décisions puis enquêtes, puis qu'est-ce qu'on va voir, c'est que les organisations vont devoir être capables de démontrer qu'une fois qu'un incident survient, ils agissent avec nous, ce qu'on appelle de la diligence raisonnable. Mais ça, c'est pour le savoir, c'est quoi qui est diligent, dites-vous que mettez-vous dans les souliers de la victime, puis dites-vous, quand vous examinez le comportement des personnes qui auraient pu agir en temps opportun, est-ce qu'ils l'ont fait? T'sais? Fait que dans une organisation sophistiquée, ça veut dire former le conseil d'administration, avoir du monde en charge désigné d'avance, puis lorsqu'un survient un incident, être capable de démontrer qu'on l'a suivi le plan. Alors, la raison pour laquelle c'est une bonne idée que ce soit notifié, c'est qu'on savait enlever le questionnement sur on va-tu public ou pas public. Là, c'est juste on doit déployer les efforts raisonnables pour s'assurer de faire l'inventaire de c'est quoi qui a été atteint, faire du damage control imminent et qui est urgent, puis ensuite s'assurer de d'identifier qui doit être contacté.
De faire le bon ménage qui devrait associer avec ce genre de situation. Puis dans le fond, comme on ne peut pas y échapper, comment ça se compare au RGPD qui est quand même occupé l'espace médiatique depuis les trois derniers mois, puis même plus loin parce que les Européens, eux autres, ils voyaient arriver, fait que ça, ils ont commencé à stresser avant nous autres, mais nous autres, on commence à stresser parce que là, c'est en application, puis donc, ça a des incidences réelles sur nous aussi.
Oui, ben, en effet, en réalité, dès qu'on parle de protection des renseignements personnels maintenant, en tout cas, en Occident, c'est un passage obligé où on ne peut pas passer à côté. Alors, le RGPD, là, faisons ça rapidement, là, mais il y a deux situations types, là, ou bien les organisations canadiennes ou québécoises auxquelles on s'adresse, ils ont des opérations qui font en sorte qu'ils traitent des renseignements directement de personnes concernées dans l'Union européenne. Mais ce qui est plus susceptible d'arriver, c'est que des organisations québécoises sont dans l'écosystème d'une organisation qui, elle, est assujettie, okay, directement, et que là, par voie de contrat, l'organisation québécoise se fait imposer une mise en conformité ou en tout cas une déclaration de conformité ou déploiement de mesures de sécurité visant à se mettre en conformité. Fait que l'enjeu, c'est que le RGPD contient, énonce des obligations de notification qui sont très strictes. La principale prévoit qu'il y a une fenêtre de 72 heures qui est donnée à une organisation entre le moment où ils constatent un incident et le moment où ils doivent donner avis à l'autorité du pays de l'Union dans lequel ils sont situés. Alors ça, c'est très contraignant, c'est même très agressif, là, je vous dirais. Alors, comment ça se compare? C'est-à-dire que quand vous dites une mise à niveau d'entrée de jeu, on sait d'à temps qu'on est, c'est-à-dire que l'Europe l'énonce positivement. Au Canada, on va avoir le même type d'obligation et il faut anticiper parce que c'était une disposition qui était prévue dans le projet de loi modifiant la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels qui, comme tu l'as souligné, est morte au feuilleton lorsqu'on est parti en élection. Alors, on doit anticiper que ce projet de loi-là va être déposé et le gouvernement, selon notre compréhension, a débuté des consultations privées là, pour la révision de la loi dans le secteur privé qui va comporter, c'est certain, une disposition similaire. Alors, mais une organisation là, qui se fait demander de déclarer être conforme au RGPD devrait logiquement être capable de faire la démonstration qu'ils vont faire un monitoring permettant de savoir s'il y a un incident et le cas échéant de faire une déclaration à leur client, ultimement aux personnes concernées.
De déclarer ces éléments-là. Il y avait aussi des ententes cadres entre l'Europe et le Canada qui basées sur nos différentes réglementations. Dans la mesure où les choses s'en viennent, est-ce que ça a une influence sur ce genre d'entente cadre-là?
Ouais, le RGPD prévoit que le groupe de l'article 29, ou en tout cas le sous-groupe qui est chargé de valider l'adéquation ou le caractère similaire ou équivalent des régimes juridiques de pays hors de l'Union européenne, ont une période de temps, là, je vais y aller de mémoire, disons 3 ans, là, je pense que c'est ça, pour revalider les décisions qui avaient été rendues sur l'adéquation de régime, mais pas avec le RGPD, là, avec la directive qui était applicable, qui est une directive de 1995. Alors donc, il faut anticiper que, par exemple, dans le cas du Canada, quand ils vont arriver à l'examen, ben ils vont constater « Ah, le Canada s'est doté depuis d'une disposition qui impose la notification en cas de brèche. » Alors ça, c'est correct, ça demeure équivalent ou similaire. Mais si on descend dans la cascade des autres obligations qui sont énoncées au RGPD, comme de portabilité de données, de tenue de registre, d'opérations de traitement et non seulement de brèche ou d'incident. Puis de droit à l'oubli. Alors là, on est susceptible de faire l'objet d'une décision qui n'irait peut-être pas dans le même sens. Alors, on va voir quel genre d'approche prennent les Européens là-dessus. Mais si on devait gager sur ils rendent une décision demain, on faut anticiper qu'il n'y aura peut-être plus d'équivalence. C'est que là, la voie empruntée par les États-Unis et l'Europe pourrait être étudiée au Canada jusqu'à temps que la Chambre des communes révise. Mais tu sais, l'activité tant du commissaire à la vie privée que de la société civile fait en sorte que moi, j'anticipe qu'on va revoir des modifications à PIPEDA au cours des prochaines années. Là. C'est rendu une matière qui intéresse l'espace public. Alors, on peut anticiper que le Canada va adopter des modifications. Et on voit au Québec, c'est un peu la même voie là, qui est empruntée. Évidemment, là, avec le début d'un nouveau gouvernement qui contrôle l'agenda là, de l'Assemblée nationale, ben, ça va revenir aux leaders du gouvernement de décider s'il y a des projets de loi de déposer.
On verra là, comment les priorités du nouveau gouvernement. Souhaitons que ce soit assez haut dans les priorités, considérant les impacts financiers puis sur la vie des gens que ça peut avoir. Puis d'ailleurs, on parle du RGPD aussi. Il y a beaucoup de mesures pénales à l'intérieur du RGPD. Est-ce qu'il y a des mesures comme ça qui sont existantes dans nos régimes réglementaires ou les révisions de nos régimes réglementaires?
Pour l'instant, non. C'est-à-dire qu'il y a des dispositions dans la loi sur le secteur privé québécois qui prévoit notamment la responsabilité des administrateurs en cas de manquement aux obligations énoncées dans la loi. Mais là, j'y vais de mémoire, là, mais selon ma dernière révision, ça n'a jamais été appliqué. Il n'y a jamais eu d'utilisation de cette disposition-là qui impose une responsabilité aux administrateurs.
Ça ferait du sens parce que si ça avait été appliqué une fois, les gens auraient beaucoup plus la frousse maintenant que ça se fasse appliquer. Comme ça ne s'est jamais fait appliquer, personne n'a peur. Là,
tout à fait. Puis au fédéral, le commissaire à la vie privée n'a pas, dans les droits qui lui sont accordés, de pouvoir de sanction.
Okay.
Il a le pouvoir de faire des enquêtes, de publier des rapports et de s'adresser à la Cour fédérale, le cas échéant. Mais tu sais, c'est très compliqué comme régime. Alors, on n'a pas l'équivalent de la FTC, la Federal Trade Commission aux États-Unis, qui peut, elle, sanctionner des manquements à des obligations d'auto-adhésion, par exemple, pour Privacy Shield ou pour publier des données, pardon. Et donc, en ce moment, par contre, ce qui arrive, c'est que lorsque le commissaire à la vie privée termine une enquête, publie un rapport, ben il y a des avocats qui font du recours collectif qui sont absolument attentifs à ça. Et donc, les organisations ne sont pas à l'abri ici parce que ça se prête à du recours collectif, ce genre de situation-là. Puis là, on se sert de l'enquête du commissaire pour alimenter la preuve devant le tribunal civil.
Oui, ben c'est ça. On a d'autres recours qui sont à notre disposition. Ce n'est pas parce qu'on le cache en dessous du tapis que si c'est fini par 16 heures, on a d'autres dispositions, là, autant au Québec qu'au niveau... civil que dans le restant du Canada, dans les régimes de common law qui leur est propre à ce moment-là qu'on peut... Ouais.
Mais on peut se questionner sur... là, tu sais, évidemment, on ne peut pas choisir à la place des législateurs là, puis de l'Assemblée nationale, mais tu sais, la Commission d'accès à l'information, on perçoit que en termes de moyens ou de ressources, ils en ont peu. Tu sais, alors, est-ce qu'on est rendu à un point où... comme collectivité, on devrait juger que c'est opportun, si on est pour avoir un régime distinct du reste du Canada, de financer adéquatement et de donner des moyens à cette organisation-là. Puis, mon commentaire n'est pas innocent. Là. Moi, il m'apparaît que c'est sans doute une voie à considérer et à emprunter.
Bon, de toute façon, on le voit avec le RGPD. Le RGPD lui-même oublie chaque pays d'avoir son propre représentant national, de un, avec les mesures, les capacités. Il repousse aussi dans les organisations l'obligation d'avoir un représentant de la sécurité qui doit répondre de façon organisationnelle à ce genre de choses-là. Donc, en soi, malheureux qu'on doit passer par une loi pour passer ce genre d'obligation-là, mais de toute apparence, le marché ne favorise pas autrement que la mise en place de ce genre de moyens-là. Fait que le législateur montre ses dents et sa capacité d'aller chercher de l'argent dans les poches des entreprises pour les motiver à mettre les choses en œuvre. Là.
Non, puis ce à quoi tu réfères, ce principe-là de la responsabilité, c'est un bon outil.
Ouais.
C'est-à-dire que ça oblige l'organisation à désigner, puis ça oblige la personne désignée à répondre au téléphone essentiellement. Puis quand quelqu'un est imputable, ben ça fait en sorte que les choses arrivent plus vite, absolument.
Les gens sont plus nerveux.
Voilà.
Quand la réputabilité est en jeu, les gens ont tendance à être beaucoup plus nerveux et mettre beaucoup plus d'attention dans ce qu'ils font pour arriver à leur fin. Moi, ça fait le tour de mes questions. Aurais-tu d'autres choses à explorer sur le sujet?
Non, en fait, je pense que ce qu'on devrait faire, c'est se redonner rendez-vous dans quelques mois, 6 mois ou... un an pour valider comment l'état de l'introduction de cette disposition-là, de sa mise en application. La même chose est vraie pour le RGPD. On vient de voir le premier acte ou le premier cas où, là, dans ce cas-ci, c'est l'autorité anglaise du UK qui a invoqué le RGPD contre une entité canadienne mêlée au scandale de Cambridge Analytica, Aggregate IQ, qui a fait l'objet d'un avis officiel en vertu du RGPD. Là, fait que c'est à suivre.
Ça va être très intéressant. Puis pour ceux que ça intéresse, dans l'immédiat ou Hackfest, Damien va venir nous faire normalement une conférence sur les trois premiers mois du RGPD et comment lui, même l'Union européenne, a pu percevoir les choses pendant ce passé.
Merci.
Merci.